Il y a ce rêve un peu fou que j'ai depuis longtemps. C'est celui de léviter. Alors, ne vous attendez pas à un épisode sur la méditation transcendantale. Ce n'est pas pour tout de suite. Mais je me suis dit que peut-être la science pourrait m'aider. Et oui, chère visiteureuse de Microsciences, figurez-vous que oui, je me suis élevée dans les airs. Je lévite. J'ai l'impression d'être sur une balançoire, mais ultra légère.
Ouais, il n'y a plus aucun frottement en fait. Une fois que vous êtes en mouvement, si on ferme les yeux, on ne sait plus si on avance, si on recule ou si on est à l'arrêt. Parce qu'il y a...
Ah ouais, j'ai reculé. Ouais.
C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune force qui s'exerce sur nous au moment où on... À part la pesanteur dans ce cas-là, mais...
Bon, je vais redescendre. Je crois que je suis obligée de redescendre. Microsciences, un podcast de la RTS. Bienvenue dans Microsciences, le podcast qui transforme mes petits rêves en grandes réponses scientifiques et quantiques. Si, si, la lévitation que je viens d'expérimenter relève bien de la physique quantique.
Physique quantique.
C'est un phénomène de la physique quantique, mais qui se manifeste à l'échelle macroscopique, c'est-à-dire à l'échelle visible. La physique quantique, c'est un peu l'étude des choses vraiment à l'échelle très très petite, où là, il y a d'autres effets un peu contre-intuitifs qui apparaissent. Là, vu que c'est quelque chose qui est en lien avec comment se déplacent les électrons dans la matière, c'est en ça que c'est lié à de la physique quantique. C'est pas une expérience dans un labo, là c'est vraiment, on voit la chaise qui lévite.
Oups, vous venez de découvrir mon secret. Pour m'élever dans les airs, je me suis assise sur une chaise. C'est elle qui était déjà en lévitation. Et c'est Adrien Welchli de l'Université de Genève qui m'a aidé à grimper dessus. Il a un doctorat en physique quantique. Alors pas de panique. Tout ce qui se passe là, c'est quantique, mais ça n'a rien d'ésotérique. D'ailleurs, le phénomène que j'ai expérimenté, vous l'avez expérimenté aussi. Si, si, souvenez-vous.
On a tous joué avec ça quand on était petit, mais si on prend deux aimants et qu'on les met pôle nord contre pôle nord, ils vont se repousser. Bah là, c'est un peu ce qui va se passer.
Vous voyez que ça n'a rien de magique. C'est un effet électromagnétique. Les forces invisibles de l'aimant sont dues à un champ magnétique. Ici aussi, dans le cas de ma chaise, il s'agit d'un champ magnétique. Mais vous allez voir, il est très spécial. Venez, on va voir cette chaise pour découvrir ce qu'elle a de particulier. Alors vous imaginez peut-être une chaise toute simple avec quatre pieds. Mais il faut que je vous dise, le dispositif est un peu plus compliqué que cela. La chaise, elle a une coque de métal et une assise en cuir, un peu comme un siège de voiture. Mais ça, c'est pour la frime. Ce qui est important, c'est que sous cette chaise et la coque sont fixés deux patins, de gros blocs, un peu plus gros que des briques. Et tout ce dispositif flotte au-dessus de deux rails, comme ceux d'un train. Il n'y a aucun contact entre les rails et les patins. Oui, je vous jure, on peut sans problème passer une feuille de papier entre les rails et les patins. Je l'ai fait.
Alors,
je prends une feuille de papier.
Et j'essaye.
La feuille passe sous la chaise. Je vous jure que j'ai eu l'impression que la feuille de papier a trembloté à l'idée qu'une chaise de plusieurs dizaines de kilos l'écrabouille contre le rail. Mais non, la chaise volante a continué à flotter sans se soucier de la feuille qui passait entre son patin droit et le rail. Je me suis donc intéressée aux patins fixés sous la chaise. Ils sont faits d'un métal supraconducteur. Supra quoi ?
Donc c'est des matériaux qui ont une propriété assez intéressante, c'est qu'ils conduisent l'électricité parfaitement, c'est-à-dire sans aucune perte énergétique. Contrairement aux métaux qu'on utilise habituellement, donc dans tout le câblage électrique, généralement c'est du cuivre, même bien que ça soit un très très bon conducteur électrique, il chauffe toujours. Un exemple que je donne toujours, c'est si vous passez l'aspirateur, à la fin vous tirez la prise, vous touchez les pins de la prise, vous verrez qu'ils sont chauds. bien que ce soit des bons conducteurs, il y a quand même quelques pertes. Ça s'exprime sous perte de chaleur, ça s'appelle l'effet Joule. Et donc les supraconducteurs ont cette propriété qu'il n'y a aucune perte. Mais il y a aussi une autre particularité, c'est qu'on peut créer des champs magnétiques en faisant circuler des courants. Les supraconducteurs, ils repoussent le champ magnétique, ou plutôt ils annulent le champ magnétique. Et donc c'est ce qui permet justement d'avoir cet effet de lévitation.
Ah ah, quand vous courez très vite, vous créez un petit peu de vent, un peu d'air. Les électrons, eux, quand ils vont très vite, ils créent un champ magnétique. Donc, un champ magnétique se forme spontanément dans certains matériaux, comme les aimants collés sur la porte de mon réfrigérateur. Et les supraconducteurs, eux aussi, forment un champ magnétique spontané. Mais il vient d'où, cet effet de lévitation? Que se passe-t-il dans mes patins supraconducteurs?
Un des phénomènes qui peut être en jeu, c'est qu'en fait, les électrons qui ont normalement tendance à se repousser à l'intérieur de la matière, ils vont pouvoir s'attirer, et ce qui va en fait faciliter le passage du courant. C'est un peu comme s'il y a un électron qui avance, et vu qu'il attire un autre avec lui, ben pour le deuxième, en quelque sorte, c'est plus facile de se déplacer.
Et voilà une chaise qui lévite. Ces patins sont formés d'un supraconducteur, dans lequel des électrons circulent. Pour une raison ou une autre, ils décident de filer tous dans la même direction. C'est ce qui crée un courant continu, en boucle. Et c'est ce courant qui fait exister le champ magnétique qui va repousser les patins de la chaise, des rails qui se trouvent juste en dessous. C'est assez cool. Mais comment on fabrique ce genre de matériaux?
Il faut refroidir. C'est-à-dire que cette propriété supraconductrice, elle s'acquiert seulement en dessous d'une certaine température, qui dépendent des matériaux, mais on appelle ça la température critique. Et il faut être en dessous de cette température pour que ça fonctionne.
Mais c'est classe quand ça fonctionne. Refroidir un supraconducteur revient en quelque sorte à créer un aimant. De luxe, certes, mais un aimant. Et en fait, c'est même mieux que ça. Parce que si un aimant a un pôle nord et un pôle sud, le supraconducteur, lui, se comporte toujours comme l'aimant de même pôle que celui qu'il a en face de lui. Donc, il cherchera toujours à le repousser. Mais j'imagine que ça ne fonctionne pas avec n'importe quel truc qu'on refroidit, si?
Non, pas tous les matériaux, seulement certains matériaux avec lesquels ça fonctionne. Beaucoup de métaux, mais après c'est des alliages ou des matériaux artificiels, comme ceux qui sont utilisés dans la chaise. C'est des matériaux qui ont été fabriqués artificiellement pour cette application.
Je commence à comprendre. Et pour me fabriquer une chaise volante, il me faut quoi, alors?
Donc la première chose à faire, c'est d'avoir un rail d'aimant. Eux, ils vont créer un champ magnétique. Plus il est intense, plus l'effet il sera important. Les rails, c'est des aimants standards, donc comme sur votre frigo. Mm-hmm. Là, on est beaucoup plus puissant.
Ok, donc j'ai des rails bourrés d'aimants très puissants. Ça, c'est pas très difficile à trouver.
Et la deuxième chose, c'est des supraconducteurs. Donc là, ce qu'on a devant nous, c'est deux. Donc c'est une chaise avec deux patins. En fait, les patins sont assez gros parce qu'à l'intérieur, il y a de l'azote liquide, donc c'est à moins 200 degrés. C'est ça qui permet de refroidir les supraconducteurs qui, si je ne me trompe pas, dans ce système-là, sont une couche mince au fond du patin. Donc tout en bas du patin, un film supraconducteur quand il est refroidi avec l'azote.
Fine couche comment? Comme le beurre que je mets sur ma tartine?
Non, c'est beaucoup plus fin, mais je pense qu'on est de l'ordre du micromètre, voire même plus fin.
Et ça, c'est dingue. Une fine couche de supraconducteur, 50 fois moins que l'épaisseur d'un cheveu, arrive à repousser le champ magnétique de gros, gros, gros aimants fixés sur des rails. Donc, si je résume, en refroidissant un supraconducteur, on obtient un aimant qui repousse celui qui se trouve dans les rails. Mais ma chaise, elle n'est pas seulement repoussée. Quand deux aimants du tableau noir se repoussent, eh ben au bout d'un moment, il y en a un qui se retourne et paf! Là, la chaise, elle lévite. Elle n'essaye pas de filer à gauche ou à droite des rails remplis d'aimants. C'est comme si elle était capturée par le rail.
Si vous essayez avec des aimants les mettre pôle nord contre pôle nord, vous allez voir, il y a un aimant qui va se retourner pour se coller à l'autre. Là, il est vraiment piégé dans le champ magnétique, et ça, c'est une propriété de ces supraconducteurs de type 2. Donc, il y a deux types de supraconducteurs, type 1 et type 2. Et type 2, en fait, il laisse quand même passer un petit peu le champ magnétique. Donc, c'est comme si on avait un bateau et qu'il y avait des trous dans le bateau. Le bateau, il va pouvoir supporter un certain nombre de trous avant qu'il coule. Là, c'est un peu la même chose. Il y a un petit peu de champ magnétique qui va pouvoir passer à travers. C'est ce qu'on appelle des vortex, là où passe le champ magnétique. Et ces vortex, en fait, figent l'objet dans le champ magnétique. Donc, c'est un peu plus compliqué que juste de la lévitation. C'est-à-dire qu'en fait, même si on essaie de tirer la chaise, on pourrait prendre le rail, la retourner, la chaise, elle tiendrait toujours sur le rail.
Oui, oui, si on bouge le rail, la chaise suit les rails. Si on retourne le dispositif, la chaise est comme accrochée au rail. Et ça, c'est ultra cool. On va y revenir dans un moment. Mais d'abord, j'aimerais savoir comment on a découvert ces propriétés si étonnantes des supraconducteurs.
En 1911, je pense que ça a été découvert en essayant d'atteindre des températures toujours plus basses. Ce qu'ils ont fait, donc Monsieur Hones, c'est qu'ils ont essayé de liquéfier de l'hélium pour mesurer des métaux à très basse température pour voir ce qui se passait. Et en mesurant en fait le mercure, ils ont découvert que tout d'un coup, la résistance du mercure, elle chutait abruptement et elle devenait zéro.
La résistance, pour le commun des mortels, c'est la solidité. Mais là, on parle de résistance électrique.
Donc c'est un peu comme vous voulez vous déplacer dans une foule. Vous allez, si vous courez dans la foule, vous allez foncer dans les gens, etc. Ça sera plus difficile de se déplacer que si il y a personne sur le trottoir. Donc c'est un peu la même chose. Là, pour les électrons, c'est une résistance au déplacement des électrons.
Cette résistance électrique, elle diminue lorsque les métaux sont très fortement refroidis. Et ça marche avec tous les métaux. Mais les supraconducteurs qui pourraient faire léviter ma chaise, c'est quoi comme métal?
C'est plus des composés qui, en fait, à température ambiante, donc à 20 degrés, sont pas des très très bons conducteurs. Et c'est seulement une fois qu'ils sont refroidis, où leur résistance descend, qui deviennent supraconducteurs, que là, c'est des très très bons, des conducteurs parfaits d'électricité. Mais il y a plusieurs classes de matériaux qui conduisent parfaitement l'électricité, mais c'est très très large. Il y a énormément de composés qui ont été découverts, mais souvent des composés artificiels.
C'est marrant. Moi, j'aurais pris des métaux qui existent plutôt que de me casser les pieds à trouver des nouveaux matériaux.
En fait, avoir des composés, ça nous a permis d'augmenter, ou ça a permis aux chercheurs de trouver des matériaux qui ont une température critique, dans laquelle ils deviennent supraconducteurs, beaucoup plus hautes. Je pense que les métaux, on est en dessous de 30 Kelvin. Peut-être en degrés, ça fait moins de 100... Enfin, en dessous de moins de 150 degrés. Alors que ces supraconducteurs, on refroidit à l'azote, donc à moins de 100. Donc on a déjà gagné quelques dizaines de degrés. Je pense que le record, il est encore à 50 degrés au-dessus. Donc moins 150 degrés.
Et chaque année, des records sont battus. Donc le Graal, c'est de trouver des matériaux qui deviennent supraconducteurs à température ambiante.
C'est ça, quelque chose qui est aux températures qu'on a dans la vie de tous les jours, donc idéalement 20 degrés, et qui supporte un certain changement de température. C'est-à-dire que là, on a des températures très chaudes, donc si à 30 degrés, ça perd cette propriété, c'est un peu embêtant. Donc vraiment quelque chose qui puisse tenir les températures qu'on vit dans la vie quotidienne.
Et ce serait super cool, puisque la supraconductivité permet de lutter contre la gravité. Je vous avais parlé du fait qu'une fois piégé dans le champ magnétique, le supraconducteur ne se détache plus de l'aimant. Et ça, je peux imaginer que ça donne plein d'idées aux scientifiques et aux ingénieurs. Dans le domaine du transport, par exemple.
Il y a aussi énormément de projets sur l'hyperloop, où justement c'est tout un projet de véhicule qui pourrait se déplacer en lévitation, sous vide, donc il y a encore d'autres notions pour diminuer le frottement. Et là, l'intention, c'est clairement de diminuer les pertes énergétiques tout en allant de plus en plus vite.
Et cette histoire de courant électrique qui ne rencontre plus d'obstacles, puisque la résistance des matériaux supraconducteurs est nulle, là aussi, ça doit donner des idées.
Il y en a qui sont déjà utilisés, par exemple les IRM, dans les hôpitaux, c'est déjà en fait des bobines supraconductrices, c'est-à-dire qu'on injecte le courant une fois, ça crée un champ magnétique qui est utilisé pour les mesures d'imagerie à résonance magnétique, et on peut enlever la prise, le courant continue de tourner vu qu'il n'y a aucune perte, et ça génère continuellement ce champ magnétique. Donc en médecine, il y a aussi énormément de projets sur la conservation d'énergie, une espèce de grosse pile, où justement on pourrait mettre du courant sans avoir de perte. Dans les transports, énormément de choses, au niveau même des moteurs, fabrication de moteurs supraconducteurs. Mais je pense que les plus gros potentiels, c'est vraiment pour l'économie d'énergie.
Mais il reste cette question du froid et des températures à dompter.
Le gros défaut actuellement de ces supraconducteurs, pour des applications vraiment à grande échelle, c'est qu'il faut refroidir. Donc ils deviennent supraconducteurs en dessous d'une certaine température, comme je l'ai dit avant, et pour atteindre ces températures, on doit refroidir. Donc là, c'est refroidi à moins 200 degrés. Donc en fait, toute l'énergie qu'on gagnerait, on la perd pour refroidir. Et ça demande aussi des systèmes qui sont plus importants. Donc la taille du patin est très grande par rapport à la taille du supraconducteur, simplement pour pouvoir stocker le liquide qui refroidit. Imaginez si on voulait faire ça dans tous les murs pour les câbles électriques. Bah, actuellement, il faudrait avoir des câbles beaucoup plus épais pour pouvoir avoir ce liquide à l'intérieur. Donc ça demande des infrastructures qui sont très conséquentes. Donc c'est une partie de la recherche qui est faite sur les supraconducteurs pour essayer d'améliorer cette propriété.
Et en espérant trouver des supraconducteurs qui révèlent leur qualité à des températures convenables, on se prend à rêver.
On pourrait imaginer des manèges où en fait il n'y a aucune attache physique entre la chaise et le rail. Là, pareil, faut être confiant et puis faut pas que ça se réchauffe. C'est-à-dire qu'une fois que ça se réchauffe, ça tient plus et là, faut pas être sur le manège à ce moment-là.
Et en attendant de se faire des frayeurs sur des manèges à supraconducteurs, les scientifiques frétillent. C'est grâce à des supraconducteurs que le CERN a pu accélérer les particules et trouver le boson de Higgs. Mais ça, c'est une autre histoire que vous avez découverte dans un épisode précédent de Microsciences. Vous pouvez le retrouver d'ailleurs sur l'application Play RTS, Apple Podcast ou Spotify, où vous pouvez aussi vous abonner. Et ils sont captifs de mon champ magnétique. Je n'ai pas encore compris si c'était contre leur gré. Grégoire Moll, coproducteur du pôle Nord au pôle Sud. Didier Ressa, ultra-vortexeur de la réalisation. Jérôme Nussbaum, supra-habilleur sonore. Et moi, c'est Uma Camis, surfeuse sur champ magnétique. Si cet épisode ne vous a pas refroidi, partagez-le sur vos réseaux sociaux préférés. Et écrivez-moi à microscience@rts.ch, microscience en un seul mot et au pluriel. Vos questions sont de petits bijoux qui sont bien plus précieux à mes yeux que ceux à venir.
Il y a quelques projets qui avaient été proposés pour fabriquer des bijoux. On pourrait mettre une crème magnétique avec des bijoux supraconducteurs qui l'évitent.